Histoire orale de la production des connaissances dans les pays du Maghreb, interview réalisée par Habib Bayeb.
Le 23 octobre 2025, à Alger, avec le Stev Did Abadi, anthropologue,
oui.
Algérien, bien sûr. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup pour la disponibilité, pour qu'on organise cette interview qui rentre dans le cadre du programme de recherche Histoire orale de la production des connaissances dans les pays du Maghreb. Et nous sommes dans la deuxième phase et je suis heureux de vous rencontrer. Et j'ai une première question toute simple et directe. Vous êtes qui ? Vous êtes né où ? Vous avez grandi dans quelles conditions sociales ?
D'habitude, c'est nous qui interrogeons les gens. Aujourd'hui, je me retrouve dans la position de celui qu'on interroge. Donc, je vais essayer de m'adapter un peu à cette nouvelle situation et de répondre donc, à vos questions. Moi, je suis Dida, c'est mon prénom, Badi, mon nom de famille, Egg Khamadine, donc fils de Khamadine. Okay. Les Touaregs, c'est comme ça qu'ils se nomment. Dida Egg Khamadine, fils de Egg. Donc, je suis né à Timiaouine, un village frontalier avec le Mali, algéro-malien, qui faisait partie de la wilaya Tamnrasset, mais qui maintenant il est rattaché à la nouvelle wilaya de Bourjibaje Makhtar, dans l'extrême sud-ouest de l'Algérie, donc à la frontière avec le Mali. Donc j'ai commencé ma scolarité là-bas, la première année, la deuxième, et puis je suis parti à Tamnrasset, à l'école, à l'internat nomade. Et à l'époque, je suis né en 1960. Je suis né dans nos campements nomades, ou nomadisés, donc ce n'est pas tout à fait les villages, quoi. C'est l'ère de nomadisation. L'administration des rattachements, c'est les villages de Timiaouine. Donc, c'est une zone qui se situe entre Tamnrasset, donc le nord de la Dora des Ifoiras, qui se prolonge jusqu'à l'intérieur du Mali, et l'Algérie. Donc, de part et d'autre des frontières. C'est notre ère de nomadisation traditionnelle. Nous sommes des Touaregs. Donc, mon père et ma mère sont des Touaregs. Après la scolarité, la première année, la deuxième, et puis donc je suis parti à Tamnrasset pour intégrer l'internat nomade. Parce que juste après l'indépendance, il y avait beaucoup de Touaregs qui n'étaient pas scolarisés. Parce que la France n'a pas créé beaucoup d'écoles. Il y avait juste une école qui a été créée en 1945 à Tamnrasset. Pour les sédentaires, donc les nomades, les petits villages n'étaient pas dotés d'écoles, donc on n'était pas scolarisés. Les premières écoles datent de l'indépendance de l'Algérie et il y a eu beaucoup d'efforts pour donc réunir les enfants des nomades dans des internats. Il y avait un internat à Tamnrasset, un internat à Idless, il y avait au moins trois internats à Tamnrasset et les villages environnants. Et donc, j'ai intégré l'internat à Tamnrasset où j'ai rencontré tous les autres enfants des nomades de toute la région, donc là-bas. Et pendant 4 ans, donc jusqu'à la sixième, donc jusqu'au collège aussi, j'ai continué toujours. Il y a un internat aussi pour les nomades. Jusqu'au lycée, donc j'ai poursuivi mes études à Tamnrasset au lycée. Et j'ai donc au lycée j'ai un bac en 85 en lettres arabes. Après le bac, j'ai intégré l'Institut d'archéologie à Alger, où j'ai fait une licence de préhistoire, archéologie préhistorique. Par la suite, donc, on a ouvert le premier département des langues et cultures amazigh à Tizi Ouzou, Donc j'ai passé le concours, je l'ai eu pour faire le magistère. Et j'ai fait le magistère là-bas, en civilisation amazigh. Et par la suite, donc, j'ai intégré le centre de recherche en anthropologie et préhistoire à Alger. Et c'était ma première fonction, donc, où j'ai travaillé jusqu'en 2015. Et donc, j'ai fait un doctorat, un PhD en anthropologie africaine. Et à l'université de Bayreuth en Allemagne en 2010. Voilà. Par la suite, après 2015, 2016, 2017, je suis retourné en Allemagne à l'université où j'ai travaillé là-bas dans le cadre d'un projet de recherche sur le Sahel qui portait sur les nouvelles formes de politique. Dans le Sahel, quoi. Émerge, c'est dans, qui émerge, les nouvelles formes, c'est en anglais.
Émerge une forme, c'est... On y reviendra, voilà. Certainement à ces nouvelles formes. Voilà. Et tout ce que vous avez raconté jusque maintenant, qui est parfait, ça donne un peu l'itinéraire global. Vous êtes né dans une famille nomade, donc quelque part, j'imagine, pas loin du village de rattachement. Voilà. Et à partir du moment où vous commencez à grandir, un enfant qui marche, qui court, j'imagine, est-ce que c'est à partir de là que vous avez commencé à prendre conscience de cette histoire du nomadisme, du fait que vous êtes nomade, que vous n'avez pas un endroit fixe, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur au début, ou c'était juste naturel, c'était comme ça qu'il fallait vivre?
Non, c'était mon univers normal, quoi. C'était, il y avait pas, on n'a jamais connu d'autre chose que le nomadisme. Donc je suis né dans un contexte nomade, donc mes parents sont des nomades, nos voisins sont des nomades. C'était pour nous, c'est tout à fait normal, quoi. C'était notre monde, quoi. Notre univers ordinaire, le nomadisme, l'apprentissage et la vie nomade, donc voilà.
Et donc rapidement, je sais que dans ce genre de conditions, et moi j'ai un peu grandi comme ça, les enfants grandissent presque trop vite, parce qu'assez rapidement, ils commencent à participer à la vie quotidienne de la famille, non?
Bien sûr, on n'a pas vraiment quand on est nomade, on est vite mis en contact avec l'environnement et on apprend très vite comment se débrouiller, c'est-à-dire comment se mouvoir, comment vivre, comment c'est-à-dire s'occuper des animaux, où trouver l'eau. Comment se rendre au campement, etc. On découvre les routes, l'environnement immédiat, et puis la tente, c'est la sécurité, quoi. On revient à la tente, c'est là-bas qu'on est en sécurité, dans un monde sauvage, en quelque sorte, qui nous entoure. Et on revient dans le campement pour retrouver l'humanité, notre famille, les proches, la mère, le frère, etc.
C'est comme ça. À quel âge vous avez commencé à vous éloigner de la tente pour aller suivre un troupeau, les animaux, chercher de l'eau, je ne sais pas. À partir de quel âge vous avez commencé?
Bon, si je considère les autres enfants, donc c'est à partir de 6 ans, l'âge de 6 ans, qu'on commence déjà à s'occuper des petites tâches qui sont dans l'environnement immédiat, s'occuper par exemple, de ramasser les bois à côté, d'accomplir des petites tâches juste dans l'environnement immédiat des campements. Ce n'est que par la suite, après donc, l'âge de 7 ou 8 ans, qu'on accompagne nos parents pour aller chercher l'eau, pour aller chercher les animaux, pour aller un peu plus loin, quoi. Voilà, s'éloigner un peu du campement. À partir de 10 ans, de 8 ans, etc. 8 ans, 10. À partir de 10 ans, on est autonome. On peut aller tout seul, ramener de l'eau, chercher les chameaux, les ramener, les entraver, les attacher, et ainsi de suite. Quand on est un garçon, pour les filles aussi, à partir de cet âge, on se sépare dans les tâches, dans l'apprentissage déjà. Les filles restent donc auprès de leur mère pour apprendre toutes les tâches liées à la maison, à la transmission de compétences liées donc au campement. Et nous, on s'occupe de, donc on est souvent avec les hommes, quoi. Pour apprendre les routes, comment s'orienter, comment s'occuper des chameaux, comment aller chercher l'eau un peu plus loin du campement et revenir. Donc, aller et revenir.
Vous suivez d'abord les adultes et après ils vous laissent tranquille parce que vous devenez à
c'est une initiation là, vous devenez par la pratique.
Pratiquement adulte.
Oui. On est initié par la pratique. Donc,
oui.
Ouais. On acquiert des compétences comme ça. Avec l'aide des autres, des adultes, quoi, qui nous apprennent tout ça et qui nous laissent après donc, se mouvoir nous, tout seuls dans le désert. Quoi.
Et est-ce que le soir, vous rentriez à la maison ou est-ce que, enfin, la maison, c'est une maison.
Ouais, ouais.
Vous rentriez chaque soir ou c'est arrivé à partir de quand, si c'est arrivé, à dormir une ou deux nuits de suite loin?
Bon, à l'âge de 12 ans, on peut passer la nuit dehors. On peut aller chercher les chameaux qui s'éloignent loin et qu'on ne pourra pas revenir au campement. On n'aura pas le temps de revenir, donc on est obligé de passer la nuit quelque part dans dans la brousse, dans le désert. Mais les gens ne vont pas se faire du souci parce qu'ils savent que nous allons de toutes les façons revenir.
Comment vous vous organisiez pour manger?
Bon,
vous prenez avec pas... vous une sorte de chose qui se conserve, qui reste, qui s'améliore.
Oui. Par exemple, on peut préparer une tagle là. C'est-à-dire une galette, on peut prendre avec nous des dattes séchées, on peut prendre du lait, du fromage, des provisions comme ça. Il faut toujours prendre des provisions et de l'eau. L'eau, c'est la matière la plus précieuse, quoi, qu'il faut vraiment. Soit on sait où ça se trouve quand on en a besoin, soit on en prend avec nous.
D'accord. Voilà. Le lait, c'est la chamelle.
Le lait, c'est la chamelle, les chèvres.
Oui, les chèvres aussi. Oui.
Les chèvres, oui.
Aussi.
La brebis aussi.
Dans votre famille, et maintenant c'est aussi une question des chercheurs, pour le chercheur, traditionnellement, qui assure l'éducation de l'enfant? La maman, parce que je sais que la place de la mère est importante, et ou le père?
Non, jusqu'au début, la formation, c'est-à-dire... C'est la mère qui l'a su jusqu'à 6 ans. Donc c'est la mère qui nous inculque les fondements de la culture touareg, c'est de la culture d'abord de la famille, les généalogies, à partir de 6 ans. Donc à partir de 6 ans, il y a un peu une espèce de spécialisation. Les garçons, ils se rapprochent plus de leur père que de leur mère. Et la fille reste plus... plus proche de la mère, qui lui inculque d'autres compétences spécifiques à la femme, à la fille, etc.
Et est-ce que pour l'apprentissage de la lecture, est-ce qu'il y avait quelque chose, le Coran peut-être, je ne sais pas, comment vous avez appris à lire?
Bon, la lecture, le premier signe que l'on apprend, ce sont les tifinagh, notre écriture traditionnelle. Ça, j'ai appris le tifinagh, je ne sais pas quand. Je me suis retrouvé comme ça à connaître le tifinagh. Mais je pense que c'est ma mère qui nous a... Mais je ne me rappelle pas exactement comment ça s'est passé. Et parce que, bon, on organise aussi des petites réjouissances, des petites réunions au marge des campements, les soirs, avec les garçons et les filles, et puis on écrivait, on faisait des petits concours dans l'écriture, etc. Des énigmes sur les sables qu'on écrivait. Antiphinaire, par exemple, on écrit la première lettre et puis c'est aux autres de deviner la suite du mot, oui. Et ainsi de suite, des choses comme ça. Et ça renforce notre compétence donc dans l'apprentissage de l'écriture antiphinaire. Voilà. Sinon, on nous apprend à l'âge de 6 ans, on doit faire la prière. Et c'est la mère qui nous apprend les premières sourates, le Fatiha, et puis 2 ou 3 sourates, et comment faire la prière. Mais si, pour l'apprentissage du Coran, il y a des spécialistes pour ça, on les appelle inslemen. Inslemen, ça veut dire les gens qui s'occupent des questions religieuses, de l'islam, des spécialistes de ça. On envoie l'enfant apprendre auprès de ces inslemen le Coran. Ailleurs, et puis il revient, ou il se spécialise.
Et vous avez fait ça? Vos parents vous ont envoyé
pour... Non, moi je n'ai pas eu la chance. Moi je suis allé à l'école parce que... ma mère, parce que mon père est décédé avant ma mère. Mon père est décédé quand j'avais l'âge déjà de 2 ans. 2 ans donc. Et ma mère, après, m'a envoyé chez un taleb à Timyaoun, au village. Je faisais déjà l'école. M'a envoyé chez un taleb. Et ce taleb, il a commencé à m'apprendre, il m'a demandé de réciter l'alphabet arabe. Mm. Et quand il m'a dit « ha », nous on ne prononce pas les « ha ». En Touareg, on dit « ha », Mohamed. Mm-hmm. Et il m'a dit « tu dis « ha », j'ai dit « ha ». Alors j'ai vu sa main se rapprocher
du bâton.
Du bâton. Quand j'ai vu ça, je suis parti. Je suis parti, j'ai abandonné. J'ai dit à ma mère, bon, le taleb, il a voulu me frapper. Et il a dit, donc, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Il faut plus y aller. S'il a voulu te frapper, tu vas apprendre tout seul, comme ça. Voilà, donc, c'était mon expérience avec l'apprentissage coranique. Donc, j'ai commencé juste, mais après, j'ai appris l'alphabet, j'ai appris l'arabe, et j'ai appris aussi quelques sourates, tout seul, quoi, dans les livres.
Et à l'école, vous apprenez le français?
Non, à l'école, on apprend l'arabe d'abord.
D'accord.
On commence l'apprentissage du français à partir de la 5e année. Quand on est arrivé au collège, on est arrivé au moment de l'arabisation. Donc on avait le choix, il y avait les classes bilingues. Donc, et les classes carrément arabisées.
Tu es arrivé jusque chez les Touareg, l'arabisation?
Oui, l'école algérienne entière.
Toute l'école.
L'école. L'école fondamentale. Avant, il y avait l'enseignement général, c'était quand même, on apprenait, et les français, il y avait des classes mixtes. On apprenait les sciences, les mathématiques en français. Et voilà. Et l'arabe, les autres matières en arabe. À partir de l'enseignement fondamental, donc il y a eu l'arabisation, donc on a commencé à se spécialiser. On a arabisé complètement l'enseignement.
Ouais. Quand vous êtes parti dans cet internat des nomades, vous êtes retrouvé avec d'autres enfants, évidemment. Est-ce que c'était une belle expérience? C'était traumatisant? Comment vous avez vécu? Parce que du coup, vous restiez plusieurs nuits à l'internat et vous rentrez, j'imagine, un jour ou deux à la tente, ou comment vous avez vécu cette expérience?
On reste toute l'année, on rentre seulement pendant les vacances d'été. C'est un hiver aussi tout à fait nouveau pour nous. La télévision, on l'a découverte là-bas, à l'internat, les cinémas aussi, et d'autres expériences qui tranchent complètement avec ce que nous avons connu dans la vie nomade. Et nous sommes adaptés, et puis c'était quelque chose de très intéressant pour nous, une découverte, un monde nouveau, de compétences nouvelles. Mais c'est-à-dire, On sentait qu'on avait, nous, quelque chose de plus, de différent par rapport aux enfants de la ville, quoi, les gens, les sédentaires. On a notre expérience de nomade, et le courage d'affronter les difficultés, et de s'assumer, de prendre ses responsabilités. Et ça a été aussi une expérience intéressante parce que ça nous a fait découvrir les autres. Parce que le Hoggar, c'est un espace immense, 500 000 km², les Touaregs sont disséminés un peu partout. Mm-hmm. Et avec les internats, nous a vraiment réunis. Et puis, c'est nous qui avions fait, enfin, les gens qui étaient dans ces internats, qui ont fait les premiers cadres fonctionnaires de l'administration naissante de Tamaracet. Parce que Tamaracet était devenu un département en 1975 et il y avait un manque de cadres, etc. Et c'était quelque chose de très intéressant comme expérience.
Mais en même temps, vous passiez quasiment 9 mois ou 8 mois, je ne sais pas, sans voir la maman, les chèvres, le papa. Ouais.
Tout à fait, oui. C'était, bon, il y en a ceux qui reviennent après les vacances et
ceux qui
restent, qui préfèrent rester, oui. Moi, personnellement, je n'avais pas beaucoup de choix parce que mes parents sont décédés déjà. Oui. Donc, j'ai fait le choix de poursuivre mes études, de rester à l'internat jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, parce que j'habitais aussi à la cité universitaire ici.
Vous êtes vous avez combien d'années d'internat dans votre
20
vie
ans.
20 ans.
Je suis le fils de l'Algérie, quoi.
L'internat vous a sauvé ou
L'internat m'a sauvé. L'internat m'a sauvé. J'ai grandi grâce au financement public parce que c'est l'État qui payait. Mm-hmm. C'était gratuit. C'est grâce à la gratuité de l'enseignement, à tout ce que nous avons pu quand même, nous, les enfants les nomades, et qui. Nous avons pu quand même faire le PDT que nous avons fait. Ouais. Et c'était quelque chose d'intéressant, quoi, l'état social.
Mais c'est une longue période où vous avez arrêté de nomadiser, non?
Mmh. Mes parents sont décédés, donc moi je suis... Donc j'ai arrêté de nomadiser. Mais mes autres parents, c'est dans la famille, mes cousins, sont toujours... J'ai un frère qui est toujours nomade, par exemple, maintenant. D'accord. Et ils sont toujours... ils nomadisent toujours. Je vais là-bas leur rendre visite. Et voilà.
Pendant les vacances... Donc, au fait, les vacances, c'était un moment où vous reprenez...
Voilà, le contact avec notre vie de nomade.
Une vie de nomade pendant trois mois, j'imagine. Ouais. Enfin,
pendant
les
2 mois, comme ça, ouais.
Et tous les ans, comme ça?
Tous les ans, oui.
Donc, vous vous êtes pas trop éloigné, au fait, de ce mode de vie nomade?
Pas du tout, parce que même à l'école et à l'internat, ce sont tous des nomades, des enfants de nomades. Donc, nos histoires, tout ce qu'on a raconté, c'est relève de la culture nomade. Oui. Et la ville de Tamna, ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville qui a commencé à grandir avec la sédentarisation des nomades. Bon, Tamaracet, c'est devenu quand même un lieu de rencontre des nomades, des oisiens, des sédentaires, de beaucoup de communautés d'origine différente, d'Algérie, du Sahel, etc.
Vous repartiriez demain de nomader si l'opportunité ou la vie vous impose de repartir en tant que nomade, vous en seriez capable aujourd'hui?
Non, je suis toujours nomade en quelque sorte. J'ai mes animaux au Sahara là-bas chez mon frère. Ça me permet de garder toujours contact avec le monde nomade. J'ai travaillé sur le nomade. J'ai nomadisé avec eux pendant mes recherches. Je les ai observés pour essayer de traduire leur savoir empirique en savoir théorique pendant des années, une vingtaine d'années. Donc j'ai continué toujours la vie de nomade, même en Europe, même là où je suis allé aux États-Unis ou ailleurs. Je considère comme, comme étant un nomade qui vient découvrir des horizons nouveaux et des cultures nouvelles, et puis revenir à son lieu d'origine.
J'ai une question, parce que moi je m'interdis aucune question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes d'abord Touareg ou d'abord Algérien ?
Je suis d'abord Touareg, et ensuite Algérien et tout le reste. Je suis d'abord Touareg, parce que je suis d'abord le fils de ma terre, de mon territoire, de mon aire de normalisation, de ma vallée. Et ma vallée se trouve en Algérie.
Ce que la géopolitique récente a imposé, les frontières et ainsi de suite, les Touaregs de l'autre côté de la frontière, ça fait partie aussi des vôtres ?
Je suis Touareg avant les frontières. Donc les frontières sont venues par la suite. Ce n'est pas les frontières qui vont nous enlever notre identité Touareg. Nous restons malgré les frontières Touareg.
Et les nomades continuent à traverser la frontière ou pas ?
Oui, toujours. Les nomades, depuis. Il y a entre l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, tous ces États-là, et heureusement d'ailleurs, on tolère quand même que les nomades, il n'y a pas que les Touaregs nomades, il y a d'autres communautés qui sont nomades aussi. Il y a les Peuls, il y a les Maures, il y a les Touaregs, etc. Et ils traversent les frontières. Entre la Mauritanie et le Mali, entre l'Algérie et le Mali, le Niger et l'Algérie, la Libye et l'Algérie. On traverse toujours, on tient à ce qu'on traverse. Ils comprennent, c'est bien.
Et vous, ça vous arrive, personnellement, ça vous arrive, pendant les moments où vous rentrez chez vous, ça vous arrive de partir comme ça et éventuellement à travers les frontières et ainsi de suite. Ça vous arrive à traverser les frontières ?
Moi, je ne vois les frontières que lorsque j'arrive à un aéroport. Pour moi, les frontières sont les frontières aériennes. Sur le territoire, pour moi, je n'ai jamais senti qu'il y a une frontière. Je vais au Niger, comme je vais au Mali, comme je vais en Libye. Je travaille en Libye pour mes recherches. Dans le sud libyen, j'ai revenu en Algérie, je travaille aussi j'ai ma famille en Libye, j'ai ma famille au Niger, je vais chez eux, je travaille là-bas aussi, au Mali aussi. Et lorsque je quitte, quand j'atterris par exemple à Niamey, ok, à l'aéroport, là c'est une frontière. Mais quand je viens du Niger vers l'Algérie, c'est pas la frontière.
Quelle chance!
Mais c'est comme ça.
C'est une vraie chance, non?
C'est une vraie chance, j'ai dit que c'est vraiment que c'est une chance que les États tolèrent ça, quoi. Nous tolèrent ce qu'on traverse, que les politiques étatiques ne sont pas très sévères vis-à-vis des nomades, quoi, qui traversent cet espace-là. Donc, c'est une chose qu'il faut valoriser, quoi. Il faut valoriser une politique des États qu'il faut valoriser.
Vous faites un bac lettres. Et on vous retrouve anthropologue.
Ouais.
Comment c'est venu ce passage-là ? C'est un choix ? C'est un accident ? C'est des opportunités ? Comment vous avez fait ce chemin ?
Bon, je suis devenu anthropologue sur le tard, quoi, par la pratique. C'est par le travail que j'ai fait, que je suis devenu anthropologue. Au début, j'ai fait la préhistoire. L'archéologie préhistorique. Donc, je travaille sur la rupestre pour mon mémoire. J'ai fait le terrain, la rupestre saharien dans le Haut-Gard. Et je me suis dit qu'on travaille sur l'archéologie, sur la rupestre, en faisant de la préhistoire, étudier les civilisations anciennes, les fouilles à travers des fouilles archéologiques, etc. Ça m'éloigne un peu de l'actualité, de ce qui se passe, de toutes ces dynamiques que je vois devant mes yeux au Sahara, chez les nomades, etc. Donc j'ai décidé de faire un petit réajustement, parce que déjà c'est pas loin, l'anthropologie. Donc je me suis inscrit j'ai présenté un projet sur les Touaregs au département des langues et cultures amazigh, de Tizouzou. J'ai eu donc le concours Et je me suis inscrit en civilisation mazère, civilisation du Maghreb, option socio-anthropologie. J'ai fait un magistère qui a été publié, donc c'est forme d'un livre, sur la tradition orale. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé, j'ai adopté une approche anthropologique, je me suis un peu formé grâce donc aux mes encadreurs, aux gens que j'ai côtoyés, aux mes études aussi. Et donc par la suite, j'ai fait un doctorat, toujours en anthropologie, en Allemagne, et j'ai décidé de devenir anthropologue comme ça. Et ça m'a servi tout ça. Et mes études en archéologie, je les utilise aussi dans mes travaux actuellement. Les linguistiques aussi, mazère que j'ai faite au département de Berbère, ça me sert. La littérature aussi, ça me sert. Donc j'utilise tout ça. Tout ça, c'est la même chose, quoi. Ce sont des sciences connexes que j'utilise souvent dans mes recherches, heureusement, sans avoir besoin d'aller, par exemple, chercher un préhistorien pour interpréter ou un archéologue pour interpréter les travaux des Italiens qui travaillent sur le sud libyen, par exemple, ou les travaux des préhistoriens sur la Perse. Je peux moi-même faire des rapprochements, et, etc.
La thèse a été encadrée par un professeur algérien,
allemand,
qui était plus ou moins spécialisé sur les questions.
Oui, c'est un spécialiste du monde Touareg, du pastoralisme sahélien et Touareg. Il a fait une thèse d'État sur les Touaregs. Voilà.
Et qui allait dans votre sens. Enfin, je dirais, il n'y avait pas de contradiction entre vous, un anthropologue allemand, et vous, à l'époque, doctorant Touareg.
Non, moi, j'ai fait une demande de bourse en Allemagne, et j'ai obtenu la bourse. Et à ce moment-là, j'avais un projet de recherche. J'ai cherché un encadreur qui allait avec mes préoccupations. Et j'ai trouvé ce monsieur, le professeur Gert Lutte, qui est maintenant à la retraite. Et on a travaillé ensemble. Et il m'a encadré avec d'autres. Gerd Spittler aussi, qui est spécialiste de Touareg Kalawé au nord du Niger. Et lui, mon encadré, il est spécialisé de Touareg du Mali et du Niger aussi. Et voilà. Et on a travaillé par la suite ensemble dans des projets. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on collabore, on fait des articles ensemble. Et, il apporte sa perspective, j'apporte la mienne et on travaille.
Et pendant la thèse, vous avez fait, j'imagine, comme quand on fait une thèse en sciences sociales, on retourne sur le terrain. Vous avez fait des recherches sur le terrain ou vous avez estimé que vous connaissiez suffisamment?
Ma thèse, c'est le terrain seulement. J'allais au moins, pendant les 15 années, minimum de 3 mois sur le terrain, par mois, par an. Minimum, parfois 6 mois. Je travaillais sur un espace qui se trouve à cheval entre les frontières algériennes et libyennes. Donc, à côté libyen, j'ai terminé de prendre une mise en disponibilité, donc d'arrêter mon travail, parce que je travaille dans un centre de recherche ici, pour pouvoir travailler librement en Libye. Mm. En Libye, donc j'ai fait. J'ai payé de ma poche mon travail, donc le terrain là-bas. Et voilà, donc c'est du terrain. Et comme en Allemagne, on publie obligatoirement la thèse avant de donner le diplôme, c'est une condition. Je l'ai publié, il y a un livre, sous forme d'un livre, la thèse.
En anglais ou en allemand? En anglais?
En français. En français.
En français.
En français. Okay. C'est disponible en Algérie. Je l'ai publié ici en Algérie. C'est disponible. Je peux dire le titre Les Touaregs du Tassili Niger, mémoire collective et organisation sociale.
Une dernière question avant d'ouvrir la deuxième partie. Est-ce que vous avez eu des engagements politiques?
Non, mais je n'ai jamais eu le temps de m'occuper de la politique. Je me suis non. Je ne faisais que ma recherche. Je voulais publier, je voulais faire de la recherche, je voulais aller sur le terrain. Je n'ai jamais eu le temps de m'occuper de la politique.
D'accord. Voilà. C'est des choix. Enfin,
Oui,
des
c'est
choix
vrai,
et
oui.
des... Parfois du contexte qui...
C'est le contexte. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas.
Non,
Il y a des politiques qui m'intéressent, mais je considère que la politique est quelque chose de très sérieux, qu'il faut vraiment s'y consacrer, et je n'ai pas le temps de s'y consacrer ou de la pratiquer. Je laisse ça aux autres.
mais est-ce que vous considérez quand même, tant que Touareg certainement, est-ce que vous considérez comme un chercheur engagé? C'est le mot engagé que j'ai.
Non, je ne suis pas un chercheur engagé. De mon point de vue, la science, c'est la science. Il y a une science. Et il faut se comparer pour faire la science, pratiquer la science, la recherche aux autres. Il faut se situer dans le il faut intégrer la communauté scientifique. C'est ça ma référence, c'est la communauté scientifique et non pas, je ne fais pas la recherche pour porter un message politique quelconque. Voilà.
Même pas
Même
pour...
si mes travaux peuvent avoir une dimension politique, je ne sais pas pour les uns ou les autres, pour ceux qui veulent les utiliser. Mais pour moi, je n'ai fait que, de mon point de vue, je n'ai fait que de la recherche et j'essaie de. Bien sûr, je suis archéologue, je fais du patrimoine, j'ai écrit dans le domaine du patrimoine aussi. Et je milite pour. C'est ma manière de militer pour le patrimoine culturel. Algérien, Touareg, etc. Voilà. J'ai fait quelques actions, par exemple, j'ai fait une école de la musique Touareg de l'IMZAD. J'ai travaillé avec les femmes pour un festival de musique touareg pour dégager les femmes qui savent transmettre ce savoir musical. Et j'ai fait un livre sur la musique touareg qui a permis d'inscrire cette musique sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce que je considère comme une contribution pour les communautés qui m'ont aidé à effectuer mes recherches sur le terrain. Donc ces femmes que j'ai interrogées, que j'ai côtoyées, qui sont devenues mes amies, je voulais leur rendre service, de faire quelque chose pour elles. Et ce que j'ai trouvé à faire, c'était d'organiser cette école qui a été financée par le ministère de la Culture pour l'apprentissage. Des ateliers, ce n'est pas une école, des ateliers chez elles-mêmes, dans leur maison, elles ont encadré leurs filles, leurs voisines. Voilà. Et donc j'ai préparé les programmes, j'ai recueilli les airs musicaux, leur poésie, c'est ça ce qu'il fallait. On a fabriqué les instruments, c'est ça ce qu'il fallait enseigner pour que les filles apprennent l'ensemble du répertoire musical et pour les transmettre, pour les sauver de la disparition. Sur ce plan-là, j'étais militant pour ça, quoi.
Ça, c'est une forme d'engagement.
Oui, sur ce plan.
Vous rendez aussi service
C'est ça, oui.
au monde touareg dont vous êtes parti.
Oui, au début, c'était pour les femmes ici, mais je vous ai dit que d'autres pourront voir dans ce que nous faisons. Un engagement politique, peuvent l'utiliser comme tel, etc. Mais ce n'était pas vraiment l'objectif premier. Premier, c'était de sauver ces patrimoines et d'offrir à ces femmes un retour pour ce qu'elles ont fait pour moi pendant mes recherches et ma fréquentation du terrain.
Et au fait, ma vraie question, au-delà de vous-même, ma vraie question, c'est aussi, est-ce qu'un chercheur peut être objectif? Est-ce que la recherche en sciences sociales, est-ce que l'objectivité existe en sciences sociales, d'après vous?
Non, d'après moi, non. On ne peut pas être objectif parce que Déjà, quand on est un chercheur autochtone, local, c'est différent, le degré d'objectivité par rapport à un chercheur étranger déjà. Et de mon point de vue, l'objectivité ou la subjectivité, ça se mesure au degré de la proximité avec l'objet que l'on étudie. Et quand on est du terroir, cette proximité est beaucoup plus grande quand on est autochtone que lorsqu'on est étranger. Parce que quand on est étranger, il y a un processus de rapprochement. On essaie de se rapprocher. Alors que quand on est autochtone, au contraire, c'est la distanciation. On essaie de se distancier un peu pour voir plus clair. Et ça, c'est problématique déjà.
Vous êtes un homme du terrain, vous êtes un chercheur, vous l'avez dit tout à l'heure, pour un sujet de recherche, vous allez sur le terrain, vous interrogez les gens, vous faites du terrain.
Oui, mon bonheur, c'est d'être sur le terrain et de trouver, discuter avec les gens, de découvrir des nuances, des choses, des ouvertures que je ne connaissais pas, et d'apprendre à travers des choses que les gens disent, racontent sur place. Et c'est ça vraiment ce qui m'intéresse.
Et quelle est, si je peux dire, si vous avez une approche, mais ça, on peut le mettre au pluriel, quelle est votre approche du terrain? Comment vous procédez pour, dès le début d'un projet de recherche? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, je n'ai pas voulu pratiquer une approche conventionnel, connu, que les anthropologues ont pratiqué, Malinowski, les autres. Je connais tout ça et parce que, de mon point de vue, j'appartiens à une génération de chercheurs africains qui essayent de réfléchir sur leur propre société, donc de travailler. Donc c'est cette approche de qui m'intéresse. Il y a des gens comme Mamadou Diawara de l'université, Somalien, de l'université, professeur de l'université de Francfort. Il y a la Burkinabé Fatimatou, j'ai oublié le nom de famille. Il y a des gens maintenant, une génération. Et je pense que je suis un peu dans ce sillage-là, donc j'appartiens un peu à ce groupe. Qui essaie de réfléchir, de trancher un peu, d'écouter d'abord le terrain, et à partir du travail que l'on fait, que l'on dégage, c'est-à-dire une approche. Et c'est le terrain qui nous impose cette approche-là. On ne vient pas avec une approche déjà et qu'on va tester avec un appareillage théorique, un outillage qu'on va utiliser, appliquer, vérifier. Ce n'est pas des thèses qu'on va vérifier sur le terrain, mais c'est le terrain qu'on va essayer de théoriser. Il y a un savoir pratique, empirique, sur le terrain qu'on essaie de théoriser, donc de rendre théorique. Et ce savoir, c'est ça ce qui va imposer notre démarche sur le terrain.
Je conseille vivement, bien sûr, tout le monde à lire cet article dans Saniyat sur l'approche du terrain. Le titre m'échappe maintenant, mais je voudrais quand même revenir sur quelques détails. Vous choisissez selon le sujet que vous abordez, j'imagine, selon l'enquête que vous réalisez, de vous orienter plus vers des informateurs ou vers des informatrices avec les femmes, parce que j'ai cru comprendre que les femmes occupent une grande place, les femmes Touareg occupent une grande place, elles ont beaucoup de rôles. Comment ça se décide ça? Je vais surtout interroger des femmes, je vais surtout interroger des hommes. C'est ça ce que j'appelle l'approche du terrain. Sur le terrain, comment vous décidez?
D'abord, l'informateur, moi je n'utilise pas le terme informateur, j'utilise collaborateur. Mm-hmm. On collabore et on échange. Et deuxièmement, sur la valeur ou l'importance, disons, d'un collaborateur, ce n'est pas par rapport à son sexe, au genre, qu'il soit féminin, c'est par rapport à à la qualité des informations qu'il détient, du savoir qu'il détient. Les groupes sur lesquels je travaille, leur importance ce n'est pas par rapport à leur importance politique ou sociale, c'est par rapport à ce qu'ils vont nous apprendre, parce que je travaille sur une anthropologie historique, de l'ethnohistoire, c'est ça mon domaine, plus précisément. Je ne travaille pas sur l'anthropologie économique, ou je travaille sur l'anthropologie historique, donc je travaille sur la mémoire. Et la mémoire dans une société à tradition orale, donc la détention du savoir traditionnel est primordiale. Mmh. Et le degré de la détention du savoir, c'est ce qui détermine l'importance de mon collaborateur, de la personne interviewée. De même, ce que nous apprend un groupe donné, même s'il est minime sur le plan politique ou social, ce qu'il nous apprend sur le passé de la communauté ou de la région qui détermine son importance pour nous. C'est ça mon approche. Et donc on interroge la mémoire et là, quand on interroge la mémoire, on fait feu de tout bois. On utilise la sémantique, la toponymie, l'archéologie, toutes les sciences connexes qui nous permettent de lire le passé et de décortiquer un peu les différentes étapes par lesquelles les communautés sont passées.
Et qui, je reviens toujours à cette séparation homme-femme, enfin séparation, différenciation homme et femme. Qui garde la mémoire?
Quand on interroge les hommes sont, ils se soucient plus de l'extérieur. Quand ils nous racontent, ils sont soit membres d'un parti politique ou ils font attention, par exemple, à ma communauté, à moi, à des questions au monde extérieur, aux questions politiques, par exemple. Et souvent, ils s'auto-censurent sur des questions. Par contre, les femmes ne se soucient pas de ces questions qu'imposent politiques. Ils disent les choses telles qu'elles les ont apprises de leur mère ou telles qu'elles les connaissent. Elles ont donc cette facilité à raconter les choses, le savoir qu'elles détiennent, parce qu'elles sont certainement, parce qu'elles ne sont pas souvent mises en rapport avec le monde extérieur. Ce que j'ai appelé un savoir pollué par les contacts. Parce que tous ces savoirs-là, on ne va pas les prendre comme ça pour de l'argent comptant. Et un savoir traditionnel d'origine livresque qui a été recyclé par la tradition et qui est redevenu traditionnel. Et il faut savoir le décortiquer. Il y a un savoir traditionnel qui reste toujours traditionnel, et souvent chez les femmes que l'on retrouve ce savoir-là. Pour les hommes, c'est un savoir un peu, j'ai dit dans certains de mes écrits, un savoir pollué par l'extérieur, par la politique, par les partis politiques. Parce qu'il ne faut pas dire ça, il ne faut pas divulguer certains secret concernant la communauté, parce que ça pourrait induire des choses, des problèmes, etc. Et pour les femmes, ça n'existe pas. Par exemple, une fois, ça m'est arrivé, une anecdote, dans une communauté au milieu du massif, très très éloignée du centre, dans un petit hameau, les femmes et les hommes, donc en même temps, on discute. Et la femme a commencé à raconter. Et puis, à un certain moment de la nuit, parce que la nuit est déjà tard dans la nuit, les petits sont partis, se coucher, et puis les gens ont commencé donc à laisser libre leur discours. Et puis, à un certain moment, l'homme lui dit, c'est bon, ça suffit, il faut pas. Ça suffit. Donc il essaie de stopper, d'arrêter la femme qui a donné cours à sa mémoire à raconter. Quand il touche certains détails qui lui juge qu'ils ne sont pas appropriés à divulguer. Donc c'est les hommes qui sont à côté qu'il intervienne auprès de la femme pour l'arrêter. D'où, donc, dans ce, pour le chercheur, bien sûr, ce sont des indices intéressants qui permettent d'abord de désigner cette femme-là pour aller la voir plus tard, pour un entretien à part, plus tard, toute seule. Et ainsi de suite. Et puis aussi de connaître les sujets gênants, parce que derrière ces sujets gênants, ça nous intéresse. Pourquoi ils le sont. Et ainsi de suite. Donc c'est ça donc, la différence entre le détenteur du savoir traditionnel, homme et les femmes. En quelque sorte, plus ou moins.
Quand on est un chercheur homme, on peut accéder facilement aux femmes, justement, même si on ne les connaît pas à l'avance. Bon, les hommes, c'est plus facile, ça je sais, mais est-ce que les femmes sont difficiles d'accès entre
Théoriquement, non, c'est pas facile, parce que dans une communauté musulmane, villageoise, conservatrice, etc., mais moi, j'ai travaillé je suis Touareg, donc je travaille dans un milieu Touareg, et je suis recommandé, je connais les codes culturels, codes sociaux, je sais comment m'y prendre, qui voir, et j'ai vu les femmes, tout seul, j'ai interviewé des femmes, je n'ai jamais eu de problème, c'est-à-dire de rencontrer des femmes tout seul, les interroger. Même en Libye, sous Kadhafi, parce que je travaille sous Kadhafi et à l'époque, ces derniers jours, et c'était un peu stressant, mais j'ai pu quand même interroger des femmes, des vieilles là-bas. Alors, côté algérien, il n'y a pas eu de problème du tout. Au contraire, je suis très à l'aise, elles sont bien à l'aise avec moi parce que ça leur permet de dire, de raconter ce qu'ils ne peuvent pas raconter aux journalistes ou aux autres chercheurs. Qui ne sont pas de. Mais ils me connaissent en tant que chercheur autochtone, appartenant à une communauté. Ils me situent dans les rapports sociaux. Ils savent d'où je viens, quelle communauté, quel est le degré de ma dangerosité, etc. Ils savent que, bon, lui, fils de tel, de telle tribu, il ne va pas nourrir, etc. Donc, on utilise tous ces paramètres-là, c'est important pour les femmes que pour les hommes. Mais on peut, dans le milieu touareg, il n'y a pas de problème pour les femmes et les hommes. On peut les...
Si moi je décide demain d'aller faire une enquête, une recherche chez les touareg, ce n'est pas évident que je puisse parler avec les femmes.
Il va vous falloir un peu rester pendant au moins 6 mois pour apprendre les touareg.
Alors, déjà.
Pour apprendre et apprendre la Touareg et les codes culturels, comment approcher une femme d'abord, comment on parle à une femme, on ne parle pas comme ça, comment on parle à un homme, et quels sont les. Maîtriser la langue pour maîtriser, c'est-à-dire comment on parlait à une femme, même une femme. Voilà. C'est important. Pour dans le contexte touareg, la parole. Donc tout ça, ça permet aux chercheurs de se libérer des interprètes, des accompagnateurs, d'observer lui-même, etc., etc.
Les interprètes, ils compliquent plus les choses, non?
Oui, ils compliquent les choses parce qu'ils traduisent souvent selon leur compréhension des choses. Et souvent, ils interprètent. C'est une grande chance de pouvoir poser soi-même ces questions, de les interpréter soi-même, de les traduire soi-même, de les transcrire et écrire, etc. Seulement vous et votre interlocuteur, votre interlocutrice. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, comme ça. Et vous savez que. Les informations que vous avez recueillies sont celles qui viennent justement de la personne en question.
Vous parlez combien de langues?
Moi, je parle seulement le tamahaq, donc la langue touareg, que j'ai enseigné pendant plusieurs années. Je parle l'arabe, l'arabe algérien, l'arabe, je ne parle pas l'arabe tunisien, mais l'arabe barcha. Je parle le kabyle, donc une variante de mazur.
Ouais.
Voilà, je parle, voilà, je parle français.
Et parle français, anglais, allemand, ouais, j'imagine.
Anglais, allemand un peu. Je parle pas l'allemand, il faut plusieurs vies pour apprendre l'allemand. Mais je me débrouille un peu. Je peux aller de Francfort jusqu'à Berlin et revenir.
Vous pouvez faire une conférence en allemand?
Non, non, pas du tout, non.
Donc ça c'est en anglais ou en
anglais
français,
ou en français, ou en arabe. Ou en arabe, ou en arabe. J'étais membre du conseil, conseil arabe pour les sciences sociales. Et les réunions que nous avons ici, c'était, tout était en anglais. De discussion au Caire et un peu partout. Ça m'a déçu un peu parce que je pensais que comme on est conseil arabe, on allait parler en arabe. Et je me disais maintenant, est-ce qu'on va parler en arabe égyptien parce que c'est en Égypte le siège, ou on va parler en arabe classique. Finalement, les gens ont parlé dans une autre langue véhiculaire que l'arabe.
Et est-ce que vous avez un projet en cours, un projet de recherche en cours? Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Bon, maintenant, je fais un travail, je prépare un livre. On vient de finir un projet avec Max Planck Institute à Berlin, sur le savoir-faire traditionnel. L'idée est que il y a des gens, des auteurs de savoir traditionnels qui n'ont pas fait, qui ne sont pas académiques, qui n'ont pas fait l'université, mais qui détiennent un savoir important, intéressant, qu'il faut valoriser. Donc il faut les associer avec des chercheurs académiques et pour valoriser leur savoir. Donc, on a fait le projet avec quelqu'un, un chercheur nigérien, un tchadien, un allemand et moi-même. Donc nous, l'allemand et moi, nous sommes des universitaires. Le tchadien et le nigérien sont des gens, des instituteurs, mais qui détiennent le savoir empirique. Et donc, on les a appelés « citizen researchers », c'est-à-dire des chercheurs citoyens. Il y a des chercheurs citoyens et des chercheurs académiques, on les a appelés comme ça. Et ma contribution, moi, c'est le savoir agricole, c'est un livre sur le savoir agricole. Les savoirs et le savoir, les communautés touareg sédentaires. Parce que les touareg, tels qu'ils ont été décrits jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant d'ailleurs, sont essentiellement des nomades, touareg nomades. Alors qu'il y a des Touaregs, des communautés sédentaires, depuis très très longtemps, que l'on considère être les continuataires actuels, les représentants actuels des Garamantes, qui ont été décrits par Hérodote au 5e siècle avant Jésus, d'où mon approche donc, historique. Et ces savoirs et savoir-faire agricoles, c'est quelque chose de... Comment irriguer la terre, le travail agricole, les champs, tout ce qui concerne le travail et le savoir-faire agricole. C'est en Libye, dans la région d'Arat, et en Algérie, dans la région de Janet.
C'est plutôt voilà. Des oasis.
Des oasis, voilà. Oui. Donc c'est un livre qui est sur le point d'être fini, terminé, mais je voudrais aller plus loin, faire un autre projet sur le savoir au Sahara, le savoir au Sahara, de communauté saharienne.
C'est passionnant.
Ça va sortir, c'est un livre, libre accès, free access. Il y aura quelques exemples en papier, il y a à peu près 200 comme ça qu'on va distribuer aux bibliothèques. Mais il sera Et je voudrais élargir ça. Je vais l'inscrire comme projet de recherche au centre que je viens d'intégrer ici à Béjaïa. Ça me permet de rester toujours.
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les savoirs oasiens.
Voilà, donc
ça m'intéresse beaucoup.
C'est très bien. Il y a Bedoucha qui a travaillé, la Tunisienne.
L'eau, l'ami du puissant.
Oui,
oui, bien sûr.
Ouais. Mais Bedoucha, c'est intéressant.
Elle travaille sur la
transmission matrilinéaire, le habous.
Oui.
Le habous.
Oui.
Pour elle, on crée le habous, c'est la transmission, c'est par la voie patrilinéaire. Les hommes, les femmes sont exclus. Chez les Touaregs, c'est le contraire. C'est la voie matrilinéaire, les hommes sont exclus. Donc j'ai comparé nos deux approches. C'est dans la terre, appartient aux femmes déjà, la terre. Et les jardins que l'on crée sur la terre qui appartient aux femmes, va revenir aux femmes par la suite, après le décès de celui qui l'a créé. Donc la transmission, ce n'est pas la voie matrilinéaire. Et Bedoucha, elle dit que c'est par la voie patrilinéaire. Pourquoi ? Parce que les hommes n'admettent pas ce que des hommes qui viennent épouser des femmes aient droit aux produits de la terre.
Ouais.
Chez nous, c'est la même chose. Les hommes qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas posséder la terre parce qu'elle appartient aux femmes.
Donc, en l'occurrence, si moi j'épouse une femme de là-bas, moi j'aurais pas le droit à cette terre.
Vous pouvez travailler et se nourrir
tant
que vous êtes vivant. Mais vous ne pouvez pas faire hériter. Les terres appartiennent à des femmes. Si vous épousez une femme qui possède déjà une femme de là-bas, qui possède déjà la terre, vos enfants pourront manger, se nourrir du produit de la terre, ne pas la posséder. Elle est inaliénable. Elle n'est pas vendue, elle n'est pas donnée, elle se transmet par la voix des femmes.
La polygamie existe ?
La polygamie avant n'existait pas chez les Touaregs, c'est pas connu. Parce que la femme, elle détient le pouvoir, parce qu'elle a l'économie, c'est elle qui possède la terre. Et c'est elle qui fait travailler l'homme. Il travaille pour elle. L'homme, il irrigue, il irrigue la terre, comme il irrigue la femme pour donner la progéniture, comme aussi il irrigue la terre pour donner les produits qui appartiennent à la femme. La progéniture aussi, elle appartient à la femme. Donc le pouvoir aussi appartient à la femme parce qu'elle détient l'économique. La terre, c'est la femme, l'eau, c'est l'homme, et voilà. Et d'ailleurs, on l'appelle Messessou, l'irrigateur. Il irrigue le jardin. Et le jardin, il irrigue la terre qui est assimilée à la femme. Donc, il irrigue aussi la femme et la progéniture. C'est le produit du jardin et aussi le produit de la femme et de l'homme. Donc, la progéniture qui appartient à la femme.
Hein? J'aime bien cette idée de l'irrigateur.
L'irrigateur. On l'appelle Emissessou en Touareg. Emissessou, c'est l'irrigateur. Il irrigue le jardin, c'est son travail.
Oui. Vous êtes un chercheur lecteur, vous lisez beaucoup
Je n'ai pas souvent le temps de lire. J'ai lu pendant que je faisais les études sur le terrain. J'ai un livre le soir. Je ne lis pas beaucoup.
Et quand vous partez avec un troupeau, avec même...
Je n'aime même pas voir des livres quand je suis avec mon troupeau là.
Ouais. Et vous prenez votre téléphone ?
Non, pas, ça ne sert à rien.
Il n'y a pas de réseau.
Il n'y a rien.
Oui, je sais, j'en ai fait l'expérience parce que je vous ai écrit.
Voilà.
Vous m'avez répondu plusieurs semaines après.
Voilà, donc.
Ça, c'est l'absence du réseau.
Oui.
Vous êtes toujours à 100% Touareg. Et vous êtes fier de l'être ?
Bon, fier, non, il n'y peut rien. Je suis Touareg, c'est tout.
Voilà.
Ouais, je suis Touareg, je suis Amazigh, et puis voilà. Algérien, Africain, Saharien, tout ce que vous voulez.
Africain, ça m'intéresse beaucoup, et ça sera probablement ma dernière question. Est-ce que Africain, vous l'opposez à l'Occident ou à l'Europe ? Par rapport à notre histoire coloniale et ainsi de suite. Est-ce que juste c'est l'Afrique ? Voilà, c'est pas plus que ça. Parce que politiquement, ça a une signification de dire « je suis africain ».
J'ai appris avec l'archéologie de la préhistoire l'évolution, la contribution de l'humanité à la civilisation humaine. Donc on est des Homo sapiens qui ont, et maintenant nous vivons une civilisation d'Homo sapiens. Sapiens. Mmh. Homo sapiens, nous avons des contributions en tant qu'Africains à cette civilisation de l'Homo sapiens sapiens, comme les autres aussi communautés et à travers le monde. Je me considère comme un citoyen, je ne dirais pas du monde, je suis africain et je me réclame de cette contribution des Africains à la civilisation humaine. Voilà, je me reconnais dans Saint-Augustin, je me reconnais dans tous les autres Africains qui ont contribué à cette civilisation humaine.
L'arabité pour vous, c'est quoi?
C'est aussi l'arabité, oui. C'est tout ça, quoi. C'est des stratifications qui sont là, qui font notre identité actuelle, y compris l'arabité et toutes les autres, avec des degrés différents, bien sûr. Chaque couche, elle a une épaisseur par rapport à ce que la séquence temporelle qu'elle a durée, et aussi à la contribution. Mais nous considérons, moi personnellement, je considère toutes ces contributions ici-là, comme notre contribution à nous, à la civilisation humaine, à l'humanité, de l'Homo sapiens sapiens. Pas.
je crois que je vous connais, en tout cas, j'ai oublié 1000 questions, mais j'ai une toute dernière qui relève de l'actualité. Ces deux dernières années, il y a eu Gaza. Ça représentait quoi pour vous, le Touareg? Peut-être le chercheur, mais surtout le citoyen. C'est quoi Gaza pour vous? Comment vous l'avez...
Bon, d'abord en tant qu'Algérien, Gaza et la Palestine. Nous, on a beaucoup le Hagra. Le Hagra, quel que soit celui qui est Hagra, mais on est contre. Non seulement on est contre, mais on se retrouve automatiquement aux côtés de celui qui est agressé, qui est mahgouar.
Oui.
Depuis Bacchus, depuis ces temps-là, et c'est connu en Afrique du Nord, et on n'aime pas. Donc, de ce point de vue, ne serait-ce que de ce point de vue, on est avec la Palestine, on est avec Gaza. Parce qu'on considère que les mahgouarines, qu'il est agressé par l'État d'Israël, pas les Juifs, l'État d'Israël. Et qu'il y a une injustice qu'il faut réparer.
Monsieur Badi, merci infiniment. J'ai oublié des questions, forcément. J'en suis désolé. Mais ceux qui et celles qui vont avoir accès à ce document précieux vous connaîtront certainement davantage et chercheront à vous connaître davantage. Et moi, je commencerai à lire pour comprendre un peu ce monde que je connais peu, parce que je viens d'ailleurs. Je ne suis pas Touareg, je connais très très peu et je n'ai pas de prétention de connaître ce sujet. Donc, vous m'avez donné beaucoup. Merci beaucoup.
Bon, je vous dis en Touareg, t'as une merde. Merci.